9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est donc ensemble pendant 2 heures pour mieux comprendre l'actualité. Alors que la contestation des Gilets jaunes se poursuit, Emmanuel Macron gagne 6 points dans le dernier sondage IFOP fiducial pour Paris Match. Comment expliquer cette remontada? Est-elle due à ses rencontres variées avec les élus et les Français sur le terrain? Est-elle justifiée pour vous? Et que dit-elle du sens politique du chef de l'État? Vos témoignages, ma chère Julie, viendront éclairer ce sondage du moment. Vous attendez maintenant.
Au standard d'Europe 1, le 39-21, vous composez le numéro, on échange vos coordonnées, oui, et on vous rappelle.
Absolument, Twitter aussi est actif pour vous. Et puis à partir de 10h, autre sujet, santé, mais néanmoins assez politique. Nous sommes à la veille d'une conférence européenne à Paris sur le sujet et on se demande en quoi et pourquoi le cannabis peut être thérapeutique. Pointé du doigt pour ses ravages par les addictologues et neurologues, c'est une substance qui serait bénéfique en certaines circonstances. Là encore, vous pouvez réagir et interroger nos invités pour mieux comprendre. Nous sommes ensemble sur Europe 1 jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et on s'intéresse au regain de popularité d'Emmanuel Macron. Un regain qui n'est pas un frémissement, mais une hausse qui a du sens. On va l'analyser ensemble. Ce sondage IFOP publié par Paris Match avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Frédéric.
Bonjour Wendy.
Avec Bruno Jeudy, rédacteur en chef et chef du service politique.
Bonjour
de Paris
Wendy.
Match. Bonjour Bruno. À quel moment, Frédéric, avez-vous lancé ce sondage? Est-ce qu'il englobe les différents déplacements récents du président?
Il a été fait en fin de semaine dernière, de jeudi à vendredi dernier. Donc ça prend en compte le contexte du grand débat.
D'accord. Donc des échanges avec des élus, relayés par les presses régionales, nationales, très belle exposition, des directs pendant 6-7 heures à chaque fois, relayés aussi par les chaînes d'infos continues. La visibilité du président est incontestable.
Oui, c'est vrai, ça lui a permis, surtout, c'est vraiment le cœur de cette remontada. Hein. Ça fait 11 points sur 2 mois, je parle sous le contrôle de Bruno Jeudy. C'est très rare qu'il y ait une remontée aussi forte, même s'il reste structurellement impopulaire. Il faut voir l'évolution, il faut voir également le niveau. Un président impopulaire et minoritaire dans toutes les catégories de population, sauf les sympathisants d'En Marche, mais très clairement, il a remobilisé son socle électoral. Il a remobilisé les segments qui lui faisaient confiance parce que, avec ses vœux offensifs, sa lettre aux Français, ce grand débat où il s'est mis en scène, où il a été relativement performant, pour beaucoup de ses soutiens, c'était Macron is back. Il est de retour et c'est le seul. Il y a aussi, rappelez-vous, au printemps dernier, le mécontentement très fort chez les retraités. 98% d'entre eux considéraient qu'ils étaient des perdants du quinquennat de François Hollande. Et puis, il y a eu la période gilets jaunes. Il y a eu ce segment de population attaché à l'ordre et à la sécurité qui voit le président Macron comme un rempart face au désordre. Donc, c'est ce double mouvement, remobilisation de son socle, et puis des catégories de population, des retraités, des sympathisants de droite. Il prend 12 points chez les sympathisants.
C'est beaucoup, hein.
On voit très bien comment la cartographie du soutien et de l'équation électorale du président Macron a fortement changé. Au début de son mandat, il était soutenu par ses sociodémocrates, ses électeurs de François Hollande 2012 qui ne voulaient pas voter pour le candidat socialiste Benoît Hamon. Très clairement, ça a glissé sur la droite et il devient le candidat ou le président des gens, entre guillemets, raisonnables face à toutes les incertitudes et face à tous les désordres.
Oui, j'attends vos témoignages sur le sujet en qualité de citoyen et je vais donner la parole dans un instant à Carl Olive qui est maire Les Républicains de Poissy dans les Yvelines. Bruno Jeudy, ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que cette hausse vraiment bénéficie au président de la République et pas à son Premier ministre. C'est dire qu'il récolte les fruits personnels aussi qu'il a semés avec ses différentes annonces depuis le mois de décembre, Bruno.
Oui, c'est un découplage assez étonnant et même inédit depuis le début du quinquennat. Et je dirais même depuis le début des quinquennats jusqu'à présent, sont les premiers ministres qui semblent assez protégés.
Oui.
C'est le président qui est en première ligne. Donc quand il y a des coups, il les prend et il baisse singulièrement, comme ses prédécesseurs. Emmanuel Macron a connu de fortes chutes. C'était d'ailleurs pas la première, ce qui aussi est nouveau. Oui, on le voit, Édouard Philippe stagne, plus 1, quand Emmanuel Macron fait plus 6 ce mois-ci, plus 11 sur 2 mois. Donc ce sont ces initiatives dont il récolte les fruits. Et je crois que Frédéric Dabi a bien dit les choses. Il a appuyé sur les 3 bonnes cases. Il a rassuré ses électeurs qui étaient un peu désemparés au mois de décembre quand il a touché le fond. Il a touché la case de l'ordre républicain pour ramener à lui cette droite modérée qui commençait à se demander s'il était vraiment à la hauteur, notamment avec les débordements qu'il y a eu à Paris, où son ministre de l'Intérieur a paru totalement dépassé, et même était totalement dépassé. Et puis la troisième touche, c'est apaiser son lien avec les personnes âgées qu'il a matraqué depuis le début du quinquennat. Et là, il a fait un pas de côté très net, puisqu'il a annulé une partie de la hausse de la CSG qui pesait sur les retraités. Donc en appuyant sur les bonnes touches, il remonte mécaniquement. Il était tombé très bas. Il faut quand même dire qu'il y a quand même 66% des Français qui ne sont pas satisfaits de son action.
Oui. Donc il n'est quand même pas sorti impopulaire,
il est quand même pas sorti d'affaires, il reste un président impopulaire.
Mais on n'aurait pas préjugé de ce chiffre de regain et de reconquête pour certains au mois de novembre. Hein.
Bien sûr, c'est une surprise. Souvent, quand on tombe très bas, c'est rare qu'on puisse remonter.
Comme
et
ça,
lui,
hein.
Il défie un peu les lois des politologues et des sondeurs comme Frédéric Dabi, puisque c'est la deuxième fois.
C'est la deuxième fois.
C'est
voilà,
la deuxième c'est fois qu'il remonte depuis le début de son mandat. Et moi, je trouve que ça ressemble à une sorte de présidence yo-yo. Et rien ne dit qu'il ne va pas rechuter. Par exemple, s'il rate la sortie du débat, il peut très bien rechuter. Et donc c'est assez étonnant et maintenant du coup un peu déroutant la courbe de satisfaction et d'insatisfaction de ce président
c'est
de la République.
C'est pour ça que c'est bien de vous avoir tous les deux et qu'on va analyser tout ça dans le détail. On va vous donner le résultat de la question Facebook qu'on a posée sur la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Comprenez-vous ce regain ? Vous allez voir que c'est très très pessimiste et négatif cette histoire. A tout de suite et je donne la parole à Carl Olive, maire Les Républicains de Poissy dans les Yvelines, qui veut nous dire ce qu'il pense de cette remontée présidentielle.
La question Facebook du jour, vous l'évoquiez, Wendy. Je précise qu'il y a eu 30 000 votes.
Oui, c'est énorme. Hein, ouais.
Comprenez-vous que la cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte ? Non, à 88%.
Oui, très, très sévère, hein, nos auditeurs.
Vraiment.
Oui.
Maria nous dit normal, il passe à la télé tous les jours avec son débat, il fait sa campagne. Michael, un grand merci aux Gilets jaunes de faire remonter sa cote de popularité. Les Français en ont tellement ras-le-bol. Et il y a eu des tas de commentaires que je vous passe.
Hein. C'était pas gagné,
Marianne, notre auditrice, elle n'a pas tort, parce que c'est vrai que
sa visibilité, sa surexposition
pour reconquérir les Français, et même au-delà, moi je dis qu'il est même en campagne pour 2022, mais c'est vrai qu'il est, on le voyait plus, et une exposition supérieure, forcément, ça paye aussi. Hein.
Et je comprends Frédéric votre Dabi. Chiffre de 88% qui n'est pas un sondage,
c'est
qui
pas
est
un
une consultation, mais 88%, il faut les ramener aux 66% du sondage IFOP fiduciaire pour match de personnes qui n'approuvent pas son action. Et ce qui me frappe, c'est que depuis le début presque du quinquennat, les raisons du mécontentement sont les mêmes. Absence de résultats sur le plan économique et social et sur le fameux pouvoir d'achat. Politique injuste, hein, c'est la marque, c'est la tâche sur le quinquennat dès le début. ISF, baisse des APL, c'était vu comme des choses pas justes. La CSG pour les retraités également. Et puis, ce lien quand même si dans le baromètre pour match, on voit que sur la compréhension des préoccupations des Français, il a pris en deux mois, il a pris une dizaine de points, il y a quand même 75% des Français qui le considèrent déconnecté. Il y a ce cocktail
qui n'est pas proche de la préoccupation pour
mépris,
le coup.
Arrogance, déconnexion qui le dessert beaucoup.
Alors, je voudrais qu'on entende un témoignage. Hier, nous avons parlé des élus de banlieue qu'Emmanuel Macron a consulté lundi soir. Et nous sommes en ligne désormais avec Carl Olive, qui est maire Les Républicains de Poissy dans les Yvelines. Bonjour, monsieur.
Bonjour, Wendy Bouchard. Bonjour, messieurs, dames.
Vous faites donc partie, Carl Olive, des élus de l'opposition, mais des élus que le chef de l'État a plutôt convaincu ces dernières semaines. Pour quelles raisons, Carl Olive ?
Moi, je fais partie des élus de terrain qui veulent tout simplement que la France gagne. Mmh. C'est toute la différence. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit au-delà des postures idéologiques. Par rapport à ce que j'ai entendu, je crois que Emmanuel Macron doit dire merci à deux corps de notre pays. Le premier, c'est les Gilets jaunes. On l'a entendu parce que sans les Gilets jaunes au début du mois de décembre, qui, rappelons-nous, manifestaient notamment sur la hausse de taxes des carburants, où on disait ça va passer, ça va se tasser, etc., il n'y aurait pas forcément eu une telle réaction. Rappelons, entre parenthèses, que les Gilets jaunes ont obtenu en trois semaines, ce que les syndicats n'ont pas obtenu en 30 ans. Hein, 10 milliards en 13 minutes, c'est beaucoup. Oui. Et puis, pardon, mais merci également au maire, puisque nous sommes allés, entre guillemets, secouer le président avec son accord avec Génération Terrain, en lui disant « Monsieur le Président, quand allez-vous décider enfin de vous appuyer sur celles et ceux qui sont en direct avec la démocratie de proximité, qui en font leur pain quotidien ? Nous sommes des courroies de transmission et certainement pas des chaînes de déraillement, comme votre suffisance peut le laisser penser. » Et là où on disait que le président n'écoutait pas, ça a été exactement le contraire. Il était temps, puisque qu'est-ce qu'on constate ? Le président devient aujourd'hui un super maire. On ne peut pas dire que ce soit un grand débat national en tant que tel. C'est de grandes réunions de quartier. tels que nous les faisons tous les mois dans nos collectivités. Et ça fonctionne. Moi, je m'aperçois que la cote de popularité du président Macron remonte. Pourquoi ? Vous savez, les Français aiment quand les gens vont au charbon. Et aller au charbon, c'est aller au terrain. Ne pas s'affranchir au travers d'appels, de lettres, de coups de téléphone, etc. Il faut être face à face, à portée d'engueulade, comme le dit si bien le président oui. Larcher. Et ça fonctionne.
Et ce qui vous permet, Carl Olive, pardon, d'adhérer aux vertus du grand débat, d'en trouver un sens, y compris lors de ces grands shows marathons que certains dénoncent parce que ça dure 6 heures, 7 heures, c'est une surexposition médiatique, mais c'est constructif. Voilà, c'est dans votre démarche aussi, vous venez de nous le dire.
Écoutez, on a, nous, ouvert nos cahiers de contributions avec les collègues de Génération Terrain et sur Poissy, on a à peu près 4000 contributions, ouais, deux réunions de grands débats, plus de 500 personnes. Et comme je l'avais dit au président quand nous étions rencontrés, il faut que ce soit un exutoire, un défouloir. Et puis derrière, puisque les Français ont exprimé l'idée d'être en expression directe, en démocratie de proximité, laissons-leur le fait de pouvoir s'exprimer. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce grand débat, d'abord, il faut le dire, c'est un succès et tout parti politique qui dirait le contraire mentirait. Maintenant, c'est nécessaire, c'est utile, c'est indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Et évidemment, le président sera attendu sur la réponse politique qu'il donnera à l'issue de ce débat.
Si vous voulez bien, Carl Olive, je voudrais faire réagir Bruno Jeudy de Paris Match et Frédéric Dabi de l'IFOP sur ce que vous dites. Les deux points sur lesquels Emmanuel Macron a pu s'appuyer et regagner sa popularité. Merci d'abord aux Gilets jaunes. Est-ce que vous partagez cette analyse, Frédéric Dabi ? Parce que c'était, encore une fois, pas gagné du tout. Quoi.
Oui, hein, alors c'est vrai que la glissade de popularité d'Emmanuel Macron a commencé avant les Gilets jaunes. On avait le sentiment avec le mécontentement des retraités avant l'été, la double démission, Hulot, Gérard Collomb, qu'il avait perdu la main. Oui. Jupiter voyait les événements s'imposer à lui. Et puis, les Gilets jaunes en ont été le débouché, si je puis dire, suprême. Il y a eu cette focalisation presque jamais vue des Français sur la question du pouvoir d'achat, où là, le président a été attendu au tournant. Et c'est vrai que les Gilets jaunes l'ont fait très fortement bouger. Mmh. Par rapport à ce qu'a dit Carl Olive, oui, le débat est une vraie réussite. Les Français ont la passion des débats, la passion de la chose publique. Pour autant, il y a un vrai sujet. C'est la sortie du grand débat, oui. C'est l'aval du grand débat. Quelle réponse politique est attendue ? Et dans une enquête IFOP fiduciale pour CNews publiée ce matin, 60% des Français pronostiquent que le président ne prendra pas en compte les avis, demandes et suggestions sorties lors du grand débat. Je ne serais pas sur une logique électorale. Que 40% disent oui, ça me paraît déjà un score assez intéressant et encore supérieur à son socle de popularité actuel.
Oui, on va parler de l'avenir de toute façon, comment le mois de mai, notamment ce fameux mois de mai, se dessine. Bruno Jeudy, pour revenir encore sur un propos tenu par le maire de Poissy, merci au maire, devrait-il dire aussi Emmanuel Macron, qui lui ont permis justement de retisser ce lien avec la population dans une forme de démocratie délibérative.
Oui, c'est une façon aimable de le dire pour des maires que le président a plutôt ignoré pendant 18 mois.
Oui, c'est plutôt fair-play.
Les élus locaux, il y a du fair-play peut-être chez Carl Olive, mais enfin c'est vrai qu'il s'était plutôt planté dans sa relation avec les élus locaux. Et la semaine dernière, moi je fais partie des journalistes qui l'ont rencontré, c'était assez étonnant de le voir. Alors, pas seulement flatter les maires et les mettre en première ligne de ce grand débat, mais même les départements qui ont une nouvelle vertu et qui, à ses yeux, pourraient être le relais pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Donc le président a fait beaucoup de chemin, mais c'est sa capacité darwinienne à s'adapter au terrain. C'est vrai qu'il a même dit « mais moi je suis Gilet jaune aussi » en disant « mais si Gilet jaune c'est être pour que le travail paie et pour que le Parlement fonctionne mieux, je suis Gilet jaune ». Il disait ça un peu en plaisantant, mais c'est vrai que il pense que, au fond, c'est presque une chance que ça arrive maintenant, parce que de toute façon, c'était inévitable.
C'est ça.
Et que la Grande Marche, parce que la Grande Marche avait été un moyen d'aller recueillir ce que pensaient les Français, c'était dans la Grande Marche, mais les 18 premiers mois, je crois qu'il a fait une erreur en pensant que présider en surplomb comme ça, c'était un moyen, j'allais dire, sans doute de faire différemment de François Hollande, mais ça a été le plus sûr moyen d'aller dans le mur en oubliant que il y avait des Français qui attendaient urgemment des résultats. Il n'a pas encore les résultats. Et je pense que c'est quand même son problème principal. Il n'a pas de résultats pour l'instant suffisamment visibles pour que les Français aient le sentiment que ça marche.
On est dans la réaction, Carl Olive, je vais vous libérer, mais simplement un dernier mot, puisque vous comprenez ce regain de popularité du président. Est-ce que vous faites partie des 75% de Français, en revanche, qui considèrent qu'il n'est pas proche des préoccupations de vos concitoyens ?
Moi, vous savez, Wendy Bouchard, je suis très pragmatique. Hein, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, la réponse politique, elle va être très importante. Maintenant, je mets le président en garde, si je peux me permettre, si on peut parler comme ça. C'est que, notamment les retraités, sur les deux réunions de grand débat qu'on a pu faire, notamment ici, les 4000 contributions, vraiment, les retraités veulent une réponse par rapport à leur reste à vivre, par rapport à toutes ces taxes qui augmentent quand leur pension, elle, n'augmente absolument pas. Et puis également, toutes celles et ceux qui ne sont pas riches, mais pas suffisamment pauvres pour bénéficier de solidarité comme d'autres. Ça, c'est deux réponses de pouvoir d'achat qui sont très attendues. Le reste, je vais vous dire, c'est de la littérature. Là, on est en train de parler sur la forme et on a bien raison. Le fond, c'est qu'encore aujourd'hui, on a une France qui a besoin de se remettre debout.
On est d'accord.
On a une France qui est à plat économiquement, avec notamment 13 épisodes de Gilets jaunes qui font que l'économie de ce pays est en train de partir à volo et que la dette de notre pays est une dette historique, comme à son habitude.
Merci, Carl Olive, pour cette analyse, cette réaction au maire Les Républicains de Poissy dans les Yvelines. On reste avec Bruno Jeudy et avec Frédéric Dabi pour commenter cette cote de popularité du chef de l'État qui remonte à 34%. 34% de Français qui approuvent donc son action. C'est un score de satisfaction supérieur à celui qu'il obtenait en octobre, à la veille de la crise des Gilets jaunes. Mais tout n'est pas rose, loin de là, dans le ciel du président. On fait le tour de la question jusqu'à 10h. N'hésitez pas, chers citoyens, à réagir. Julie vous attend.
Au 39-21. Alors que la contestation des Gilets jaunes se poursuit, Emmanuel Macron gagne 6 points dans le dernier sondage IFOP Fiducial pour Paris Match, un résultat que commente ce matin Bruno Jeudy pour Paris Match et Frédéric Dabi pour l'IFOP. Wendy Bouchard.
Oui, alors évidemment, le maire Carl Olive avait raison de préciser qu'on n'est pas dans les résultats, là. On est dans la réaction à une contestation sociale et que dans cette réaction, Frédéric Dabi, le président Emmanuel Macron a plutôt convaincu, il a su trouver les mots, ses grands débats se poursuivent. Ce soir, il sera face aux élus, mais aussi face aux jeunes, et on en parlera aussi de cette manière de rencontrer toutes les catégories de population. Il a compris déjà à qui il devait s'adresser. Voilà, se réadresser en tout cas.
Oui, c'est vrai que quand on regarde un peu le profil des personnes qu'il a rencontrées depuis le début du grand débat, c'était clairement des segments de population qui étaient en protestation, en colère ou en frustration par rapport au chef de l'État. Les maires, ça a été très bien dit par Carl Olive. Les personnes des communes rurales, dans une enquête IFOP pour l'association des familles rurales, on voit que 2/3 des habitants des communes rurales ne disent ne pas bénéficier de l'action des pouvoirs publics. Il y a un vrai sentiment d'isolement et d'une France délaissée qui a supplanté, si je peux dire, la France des banlieues. Maintenant, les jeunes, ce qui est très intéressant, c'est un segment où il a réussi un score honorable pendant l'élection présidentielle. Il fait 23%, mais il fait moins que Jean-Luc Mélenchon. Et au second tour, Marine Le Pen fait mieux que sa moyenne chez les jeunes. Chez les jeunes, ça a bien tenu depuis le début du quinquennat, mais il y a eu un acte lourd. Il y a eu ce qui s'est passé au mois de septembre face aux jeunes horticulteurs, où Emmanuel Macron lui dit il faut traverser la rue pour trouver... Voilà. Non, je dis la phrase de manière incorrecte. Oui. Mais ça a beaucoup marqué chez les jeunes. Et là, dans l'enquête IFOP fiduciale pour Paris Match, on voit que la remontée se fait dans toutes les catégories, mais pas chez les jeunes.
Ouais, c'est pour
il
ça
reste
qu'il y va ce
soir. Chez les jeunes et il est à peine à sa moyenne. C'est chez ces jeunes.
Oui.
C'est chez les 25-34 ans, la génération de l'insertion qui justement peine à s'insérer, qu'il est particulièrement attendu sur la question des résultats.
Oui, donc il sera particulièrement ausculté ce soir sur cet échange, Bruno Jeudy.
Oui, c'est assez étonnant. Il est, on l'a dit et répété, c'est un jeune président, 40 ans, et en même temps, c'est un président qui finalement a plutôt ignoré cette catégorie où il s'en est peu préoccupé depuis le début, ce qui est assez paradoxal puisque c'est le plus jeune président qu'on ait eu depuis les débuts de la 5e République.
Ah, donc, surtout que François Hollande avait beaucoup déçu sur le sujet,
Hollande, il a déçu sur bien des points. Oui. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, on aurait pu s'attendre au contraire. Et lui-même, la semaine dernière, diagnostiquait qu'il y avait deux catégories qui étaient totalement absentes des débats. Les banlieues, les quartiers et les jeunes. Donc cette semaine, ça a été ces deux cibles. Parce qu'en fait, dans ce grand débat, il essaie aussi de rattraper des pans de la population au-delà, de, j'allais dire, du cœur des Gilets jaunes, des gens qui sont des catégories qui ne sont pas contentes de son action. Et ces deux-là en sont un symbole. Au-delà de ça, il est très fier de son grand débat parce qu'il explique qu'il l'a imposé à ses collaborateurs, ses conseillers et même ses ministres.
Ça lui a été largement soufflé par les élus, les fameux maires.
Oui, les maires lui en ont parlé, mais autour de lui, c'était plutôt un grand scepticisme, pour reprendre son mot.
Oui.
Et je dis ça parce que Je pense que, alors chez les présidents de la République, c'est toujours pareil. Hein. Quand ils ont eu raison un peu contre tout le monde, ça veut dire que les solutions qui vont avancer derrière, ça risque d'être un petit peu du même tonneau. Je m'explique, quand il dit le référendum est sur la table, on voit bien qu'il y a une levée quand même plutôt contre cette idée de référendum comme sortie du grand débat, y compris dans son propre...
Qu'il souhaiterait au départ concomitant avec le 26 mai,
alors
date
ça, à mon avis,
des Européennes.
Ça risque d'être poussé. C'est comme un, j'allais dire, un ballon d'essai. Ça va vite retomber.
Oui.
Mais ça veut dire que avec ce grand débat, il reprend de la force. Mmh. Et il y a toujours le danger d'un président qui se sent un peu trop sûr de lui et qui peut derrière appuyer sur le mauvais bouton pour appuyer sur le mauvais bouton pour la sortie du débat, parce que la sortie du débat, elle peut pas être déceptive. Là, il y a une espèce d'euphorie qui s'empare de la majorité, et pour cause, hein, ils étaient au fond du trou au mois de décembre. Mais la sortie du débat va être très 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 compliqué.
On va y venir. En attendant, j'entendrai juste le témoignage de Gilles qui est avec nous et vous nous appelez de Paris. Bonjour Gilles, au 3921.
Bonjour.
Je vous lis un commentaire de Nicole qui nous écrit sur la page Facebook qui ne comprend pas, elle, que la cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte ou qui ne l'accepte pas. Il est en train de faire sa campagne électorale, dit-elle, en prétextant un débat national. Comment vous positionnez-vous sur le sujet, vous Gilles ?
Moi, je pense que notre président montre qu'il apprend vite son métier. Il n'avait pas fait de politique jusqu'à présent. C'était un simple technocrate qui a gagné une campagne électorale. Et maintenant, il commence à découvrir ce que c'est que d'être un homme politique qui est élu.
Oui.
Et donc, il a fait la démonstration qu'il savait aussi écouter le peuple, alors que jusqu'à présent, ça avait été son déficit d'écouter le peuple, d'écouter les élus. Et là, il a inversé les choses.
Vous pensez qu'il peut y arriver, aller plus loin dans cette écoute ?
Je pense qu'il va apprendre beaucoup comme l'ensemble des ministres, et qu'à partir de là, ben là maintenant, il faudra qu'il montre qu'il sait aussi entendre les messages. Moi, je sais que dans un secteur que je connais bien, il a démontré que quand il a annoncé qu'il changerait l'attitude sur le glyphosate, par exemple, ben il a écouté le monde agricole. Il ne comprenait pas sa politique dans la matière. Et là, bon, il va falloir maintenant qu'il montre ce qu'il sait, ce qu'il saura entendre. Et ce qui sera là aussi difficile à faire, c'est non seulement qu'il montre qu'il a entendu la population, mais aussi qu'il montre ce qu'il n'a pas entendu, qu'il ne peut pas attendre.
Tout commence ou tout recommence, j'allais dire, Gilles, et c'est bien voilà. Le problème. Hein. Vous êtes vraiment sur la ligne de nos analystes ici en studio, Frédéric Dabi. C'est une reconquête d'un moment, face au chiffre d'impopularité terrible qu'on constatait avant le mois de décembre. Mais une fois de plus, tout est à construire là pour le président.
Oui, tout est à construire, le quinquennat est encore long. Bruno, l'a bien rappelé, hein, c'est un président qui a un rapport très original avec la popularité. Traditionnellement, on dit qu'on ne ressort pas de l'enfer de l'impopularité, sauf période de cohabitation pour François Mitterrand ou Jacques Chirac, ou période exceptionnelle post-attentat de Charlie ou du 13 novembre pour François Hollande. Emmanuel Macron a réussi déjà deux fois à amorcer une reconquête. En septembre 2017, où il prouve qu'il va appliquer son programme avec les ordonnances de la loi travail et puis le soutien d'une partie de l'électorat de droite. Et là maintenant, pour autant, il restera jugé comme ses prédécesseurs. Et là, je pense à Nicolas Sarkozy, qui savait y faire aussi en reconquête, en remobilisation de son socle. Rappelez-vous du débat sur l'identité nationale. Il va devoir avoir des résultats. Mmh. Et c'est vrai que ce quinquennat devient de plus en plus un quinquennat pour avoir des résultats sur le pouvoir d'achat, comme le quinquennat de François Hollande a été très vite un quinquennat pour inverser la courbe sur le chômage. On se souvient comment ça s'est fini.
Merci Frédéric Dabi. Je vous laisse réagir juste après la pause, Bruno Jeudy. Je voudrais savoir si le président Macron a trouvé un peu les recettes de cette reconquête seul. Parce que vous disiez qu'il était fier d'avoir imposé ce grand débat, etc. Qui l'entoure, qui le soutient dans son entourage, en l'occurrence sur ce dessin, sur cette reconquête-là. On fait le tour de la question jusqu'à 10h sur le sujet. Un autre maire sera avec nous pour témoigner. Il est maire sans étiquette dans l'Eure de Saint-Colombe, la Commanderie. Alain Hébert, à tout de suite sur Europe 1.
34% des Français approuvent l'action d'Emmanuel Macron qui remonte de 11 points dans les sondages sur janvier et février. Alors comment expliquer cette embellie, cette reconquête? On en parle jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard.
Avec nos invités, alors que 74% des Français considèrent toujours que le président n'est pas proche de leurs préoccupations, même résultat issu de ce sondage IFOP qu'a commandé Paris Match Bruno Jeudy pour l'IFOP avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint qui est avec nous en studio. Alors Bruno Jeudy, petite question parce que le pouvoir isole, c'est ce que disait Gérard Collomb au commencement des problèmes d'ailleurs, est-il aussi seul dans sa remontée Emmanuel Macron, au sens où finalement il a décidé tout seul de cette stratégie et qu'il n'est pas beaucoup épaulé, vous qui connaissez aussi les arcanes du pouvoir et des coulisses?
Globalement j'ai envie de vous dire oui, ça reste un président assez seul, assez solitaire, qui a même à mon avis pris un peu ses distances avec certains de ses conseillers. D'ailleurs on sait qu'à l'Élysée il y a un remaniement là qui s'organise, certains sont partis, d'autres
je sais pas si c'est lui qui prend ses distances, sont ses conseillers qui prennent leur distance.
Un peu les deux, mais quand même, lui, on voit bien d'ailleurs sur cette affaire de grand débat, il est assez fier de dire qu'il y avait un grand scepticisme quand il a évoqué cette idée. C'est quand même pas neutre de la part d'un président de la République, le faisant devant des journalistes de surcroît. Donc il y a ça. Je crois que lui-même, quand il a été extrêmement touché et quasiment à terre après son retour d'Argentine, on est début décembre et il y a l'Arc de Triomphe qui a été attaqué par les plus violents des gilets jaunes, les casseurs. Il va au puits, ça se passe très 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 mal dans cette préfecture où les gens sont quasiment aux portes de sa voiture. Et quand il revient, c'est lui qui l'explique, il a choisi une période de silence parce qu'il dit parfois ça sert plus à rien, on n'est plus audible. Et donc il a choisi ce silence. Il a mûri sa décision du 10 décembre hein, d'aller faire ce, en quelque sorte, là je vais être un peu trivial, de faire un chèque de 10 milliards pour apaiser une partie de la colère des gilets jaunes. Et d'ailleurs ça n'a pas suffi puisqu'ils ont poursuivi après avec d'autres manifestations, mais ça c'était sa première réponse, sa réponse dans l'urgence. Et ensuite il a misé, j'allais dire stratégiquement, sur le choix d'abord de rassurer son électorat. Ensuite j'allais dire il s'est comporté en homme politique plus expérimenté qu'on le dit, cherchant d'abord à consolider son socle parce qu'il était en train de se dérober sous ses pieds, c'est ce qu'expliquait Frédéric, et puis jouer le parti de l'ordre et le parti des gens raisonnables. On voit bien qu'il y a, et les auditeurs n'ont pas tort, on voit bien qu'il se déploie déjà comme une sorte de campagne électorale permanente. Il dit je veux le débat permanent. Moi j'ai envie de dire par moment que ça ressemble à une campagne électorale.
Ça c'est inédit quand même. Hein. C'est-à-dire lancer une campagne trois ans avant la réélection.
La campagne de réélection la plus longue de l'histoire de la 5e qui s'amorce.
Mais c'est pas impossible que ça. Lui qui parle aussi de conversion personnelle, voilà, de retrouver un petit peu son rapport et son attache avec les Français, qu'on soit dans une campagne permanente.
Oui, c'est vrai que le quinquennat accélère le temps politique. On disait aussi de Nicolas Sarkozy qu'il pensait qu'il était dans une logique de campagne. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu un seul scrutin intermédiaire. Le premier verdict des Français, ce sont les européennes le 26 mai. Il est parti comme s'il se projetait sur 2022. Il a sans doute raison compte tenu de la détérioration de son lien avec les Français. Moi, je suis frappé dans nos enquêtes qualitatives où les Français s'expriment spontanément à quel point les petites phrases ont sédimenté, se sont enracinées, ont sculpté la figure d'un mauvais Giscard, si je puis dire, d'un président méprisant, arrogant. Il reprend des points sur ce terrain-là avec le grand débat.
Il avait fait aussi
beaucoup de mea culpa. Il l'avait fait aussi un petit peu, ça n'avait pas trop mal marché. Pendant son itinérance mémorielle, qui a été complètement effacée par la petite phrase sur Pétain, et surtout
qui lui
par les gilets jaunes.
Aucun point dans les
sondages. Quasiment pas, mais ça avait fait atténuer, disparaître les propos sur l'arrogance, qui sont réactivés à chaque petite phrase. C'est ce qui m'a fait dire récemment que, pour beaucoup de Français, Emmanuel Macron est la solution et le problème en même temps. La solution, parce que c'est maintenant le président des gens raisonnables, le rempart en termes de comparaison par rapport à une présidence Le Pen, à une présidence Mélenchon, une présidence d'une autre personne. Mais c'est aussi le problème pour beaucoup de Français. J'avais rarement vu une telle acrimonie des paroles si dures vis-à-vis d'un président si tôt en début de mandat.
Oui, et vous parlez du rempart et j'aimerais qu'on analyse dans quelques instants un autre sondage IFOP que vous lancez pour Marianne. Si la présidentielle avait lieu demain, la photographie de l'opinion est nette. Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient de nouveau au second tour. Il n'y a plus qu'eux finalement dans ce paysage politique. Ça peut être très inquiétant à certains égards. On y reviendra, mais je voudrais que Alain Hébert témoigne, vous qui êtes maire. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Maire de Sainte-Colombe-la-Commanderie, c'est une commune de l'Eure. Vous êtes maire sans étiquette et vous participez à votre manière aussi au grand débat et au débat dans votre commune. Quel est votre sentiment sur le regain de popularité d'Emmanuel Macron, monsieur le maire ?
Bah, le regain de popularité, c'est suite au débat, aux différents débats qu'il a instaurés depuis un mois.
Clairement, oui.
Les gens avaient besoin de se faire entendre. Les gens voulaient exposer leurs préoccupations. Mmh. Pour moi, la préoccupation première, je pense que la priorité, c'est de trouver des solutions pour que les personnes qui travaillent et qui ne peuvent plus y parvenir, je pense que c'est une des priorités, ainsi que les petites retraites, parce que c'est travailler et dire à la fin du mois ou au 15 du mois, on ne peut plus y arriver, c'est quelque chose qui ne peut pas durer dans le temps.
Ça veut dire que si le débat fonctionne, Emmanuel Macron a entendu une partie de ce message-là. Pour l'avenir, est-ce que vous êtes optimiste ? On commençait à entrevoir les choses avec Carl Olive, qui est homologue de maire de Poissy dans les Yvelines. Qu'est-ce qui s'annonce de bon pour vous dans les mois qui viennent, Alain Hébert ?
Pour moi, c'est de trouver vraiment des solutions. Parce que Emmanuel Macron, il représente, je vais dire, ça a été sa force, le nouveau monde. Mais on ne peut pas vivre dans un nouveau monde avec des recettes de l'ancien monde.
Oui.
Donc je pense qu'il faut profiter de cette mise à plat, mais sans tabou, sans élucider certaines choses qui peuvent gêner. Donc mettre tout à plat sur la table et tout reprendre point par point. C'est des choses qui peuvent durer des mois, voire des années. Mais il faut quand même donner la direction.
Monsieur le maire, avec une possibilité référendaire, ça c'est un levier sur lequel le président devrait s'appuyer.
Oui. Absolument, je pense que les personnes qu'on peut trouver sur les ronds-points, mais qui sont une infime minorité, c'est le haut de l'iceberg, mais en dessous il y a énormément de personnes qui sont dans leur foyer et qui partagent tout à fait cette difficulté de vivre. Donc ces personnes, ils ont besoin de se faire entendre, ils ont besoin d'être écoutés, et ils ont besoin de voir certains de leurs revendications ou doléances prises en compte par les personnes qui nous gouvernent.
Alors voilà, pour les solutions, monsieur le maire, je vais rebondir là-dessus, et juste après la pause, on les évoquera avec Frédéric Dabi, Bruno Jeudy. Merci Alain Hébert pour la commune Sainte-Colombe, la Commanderie dans l'Eure. Solution référendaire, on va voir comment se profile éventuellement cet instrument qui peut séduire un certain nombre de Français aujourd'hui. Petite pause, et puis n'hésitez pas à réagir comme nos invités au 39-21. Julie, on vous attend.
Emmanuel
c'était
Macron.
Super, dit Charlotte Aurégonian en coulisses.
Elle adore.
Je tiens à préciser.
Oui.
Il prépare l'émission avec nous. Voilà.
Emmanuel Macron remonte dans les sondages au bénéfice d'une séquence d'échanges avec les Français. Le grand débat qui aide visiblement le président à reconquérir l'opinion. Dites-nous d'ailleurs ce que vous pensez de cette stratégie au 39-21. Et nous poursuivons l'émission avec Wendy Bouchard et ses invités.
Et oui, et ce grand débat qui peut devenir la planche de salut du président de la République, ainsi peut-être que ce fameux référendum, alors qu'on agite un peu dans tous les sens, on ne sait pas très bien d'abord à quoi il correspondrait, Bruno Jeudy et Frédéric Dabi, Frédéric Dabi pour l'IFOP, Bruno Jeudy pour Paris Match, dont vous êtes rédacteur en chef du service politique. Alors, il était question tout récemment d'un référendum sur une question plus institutionnelle qui aurait pu être couplée avec la date d'élection aux européennes, le 26 mai. Ça ressemble à un ballon d'essai. C'est-à-dire qu'il a envoyé l'idée, mais Emmanuel Macron puisse y retomber un peu. Hein.
Oui, c'est lui-même qui a évoqué l'idée. J'ai le sentiment, 8 jours plus tard, que ça ressemble à un ballon d'essai. D'abord, finalement, c'est assez cohérent avec la démarche qu'il entreprend de beaucoup consulter, puisqu'il a consulté les chefs de parti cette semaine. Mm-hmm. La plupart lui ont fait part soit de leur opposition à l'idée du référendum, soit à l'idée du référendum, et surtout le 26 mai.
Oui,
le 26 mai, ça semble quand même relativement écarté, puisque même à l'intérieur de La République En Marche, on met en garde le président sur le fait que ça parasiterait totalement les européennes, Or, les européennes, c'est une élection que les marcheurs peuvent gagner. En tous les cas, ils sont coude à coude avec le Rassemblement national dans les sondages. Et puis surtout, l'Europe, c'est quand même un peu l'ADN de Macron. C'est-à-dire que là, pour le coup, on sait bien que s'il fait un référendum...
Puis c'est,
ce jour-là,
c'est trop sérieux, pour être récupéré aussi par des enjeux plus...
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au-delà de le faire le 26 mai ou le 25 juin ou à la Saint-Glinglin, c'est est-ce que c'est réellement la solution pour sortir de la crise des gilets jaunes. Et moi, sur ce point-là, je ne suis pas convaincu, parce que je pense, c'est ce qui m'a le plus surpris quand le président nous a parlé, c'est que lui pense que les questions économiques et sociales ont été traitées le 10 décembre avec ses annonces, heures sup, annulation de la hausse de la SCG pour les retraités, enfin toutes ces mesures qui étaient attendues et qui vont maintenant se traduire sans doute de manière sonnante et trébuchant pour les Français concernés. Mais je suis pas sûr que sur les ronds-points on dise youpi parce que on va diminuer le nombre de députés ou on va rendre le vote obligatoire. Je trouve que c'est une réponse assez politicienne. Alors sans doute qu'il y a une réforme institutionnelle et constitutionnelle à faire, peut-être. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon niveau de réponse. Maintenant, le président de la République qui tranchera à la sortie du grand débat.
Frédéric Dabi, quand vous interrogez les Français sur leur rapport au référendum, leur envie de référendum, qu'est-ce qui ressort pour l'IFOP ?
Oui, il y a une envie, mais elle n'est pas spontanée.
Oui,
sur
pas
les
ronds-points,
on n'a pas entendu des choses. Alors, il y a eu la deuxième partie, l'acte 2, enfin le grand acte 2 des Gilets jaunes, quand on est passé du pouvoir d'achat, de la crainte du déclassement qui résonnait, et le soutien des Français venait dans la convergence entre les propos des Gilets jaunes et ce qui inquiétait les Français, la crainte du déclassement, la focalisation sur le pouvoir d'achat. Mais c'est dans la deuxième partie qu'on a parlé du RIC, par exemple, et il n'y a pas d'écho. Non. Chez les Français. Bien sûr, lorsqu'on teste la baisse du nombre de députés, la proportionnelle, on a une majorité énorme de Français qui y sont favorables. Faisons un petit point d'histoire. Il y a maintenant 19 ans, quand les premiers sondages avaient été menés sur la réduction du mandat présidentiel, du septennat au quinquennat, il y avait une majorité massive. Ça s'est traduit par une abstention absolument extraordinaire qui a dépassé ou qui a tangenté les 70%. Un référendum, bien sûr, ça sera difficile de créer une mobilisation contre des réformes institutionnelles que les Français soutiennent, mais les Français font part de leur mécontentement avec leurs pieds, si je puis dire, en n'allant pas voter, puisque le discours qui risque d'émerger, c'est les questions ne sont pas au cœur de nos préoccupations. On est loin des questions économiques et sociales, on est loin de l'avenir des enfants, on est loin du pouvoir d'achat.
C'est ça. Si référendum peut y avoir, c'est un référendum plutôt à tenue locale, avec des enjeux sociétaux très concrets. Là, on n'est pas
forcément dans la même ligne. Il ne faut pas non plus complètement évacuer l'idée du référendum, parce qu'il y a une envie des Français de s'exprimer. Je pense que Emmanuel Macron a compris aussi qu'il y avait une forme de relégitimation aussi, peut-être à faire dans ce mandat, comme dans d'autres, puisque au fond, on voit bien que l'Assemblée nationale, l'élection des députés dans la foulée du président, ça a complètement changé la nature de ce régime. Et au bout de deux ans, c'est pas possible qu'au bout de deux ans, le président se retrouve complètement remis en cause. Oui. Donc on a un dysfonctionnement institutionnel. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, n'oublions pas que le mouvement des Gilets jaunes est d'abord assis sur la question du pouvoir d'achat, de Français qui estiment que leur travail, ils travaillent et qu'ils n'y arrivent pas. C'est quand même ça la base de ce mouvement. Et l'évacuer par un référendum très institutionnel avec des questions dont les gens, à mon avis, n'ont pas grand-chose ou s'en fichent, c'est assez risqué. Alors, le propre des politiques, c'est de prendre des risques. J'ajoute, si on est un peu politicien, et hier, j'ai rencontré un des responsables de La République En Marche assez important, qui disait, en plus, est-ce qu'on en a encore besoin alors qu'Emmanuel Macron reprend des couleurs de manière assez cynique. Mais c'est pas faux non plus, prendre des
risques.
Autant
miser sur les grands débats qui fonctionnent, qui sont dans un échange
Il faudra quand même apporter une réponse. Alors, est-ce que ce seront des projets de loi très concrets qui sont en prise avec la vie quotidienne des Français? Il y a une réponse à faire. Je pense que ça passera aussi par du symbolique. Et le symbolique, parfois, c'est des choses du genre, alors au-delà de les anciens présidents réduire leur train de vie, peut-être supprimer les voitures de fonction pour les ministres ou autres, il va
un
y avoir du symbolique,
vous voulez dire.
Parce que ce mouvement, il y a aussi l'idée de prendre à ceux qu'on a beaucoup pour calmer ceux qu'on a moins.
Emmanuel Macron qui remobilise son électorat, janvier-février, il remonte de 11 points, il fait l'unanimité chez les sympathisants de La République En Marche, il poursuit sa remontée chez les Républicains. Pour le reste, il demeure un président assez impopulaire, on rappelle son taux de satisfaction
oui,
quand même. Hein,
34% contre 66% qui n'approuvent pas son action, dans une trentaine de pourcents qui n'approuvent pas du tout.
Et on va parler d'un autre sondage IFOP pour Marianne cette fois. Si l'élection présidentielle avait lieu demain, qu'aurions-nous sous les yeux comme candidat? Eh bien, on en parle juste après la pause. Frédéric Dabi, Bruno Jeudy avec nous et vos témoignages au 39-21. N'hésitez pas, on vous attend les amis.
Comment Emmanuel Macron a inversé la tendance du désamour? Les analyses de Frédéric Dabi et de Bruno Jeudy nous éclairent jusqu'à 10h au micro de Wendy Bouchard.
Avec un premier sondage dont on a parlé, publié pour Paris Match cette semaine, avec ce regain de popularité du président. Et ce deuxième sondage dont on a connu les résultats hier soir, Frédéric Dabi, je voudrais que vous nous en parliez, que Marianne va publier sur une projection. Si la présidentielle avait lieu demain, à quel match assisterait-on?
Oui, alors c'est bien sûr un exercice de style, on n'est pas du tout en campagne présidentielle, mais ce qui est assez intéressant, c'est que la fracturation, le Big Bang électoral qu'on a connu en 2017 se poursuit, et dans un champ de ruines, il ne reste qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron, 30% d'attention de vote. Là où ce chiffre est proprement incroyable, parce qu'on avait fait par le passé ce même exercice de style sous les présidences Sarkozy et sous la présidence de François Hollande, deux présidents impopulaires et qui voyaient leur socle électoral de la présidentielle baisser fortement, voire très fortement. Il avait été divisé par deux pour François Hollande.
Ah oui.
Emmanuel Macron, rappelons-le, il fait 23,8 en avril 2017, il atteindrait 30% parce qu'il prend très fortement dans l'électorat de droite. Hein, 40% des électeurs Fillon choisiraient Emmanuel Macron. Et on a maintenant un champ politique qui s'est tellement fragmenté que les partis politiques traditionnels, ces partis de gouvernement, se sont effondrés. Hein, 3% pour Olivier Faure, 6% pour Benoît Hamon, 8% pour Laurent Wauquiez. Là où il y a quelque chose à voir en termes d'alerte pour Emmanuel Macron, c'est le second tour où on a testé la force du vote blanc. Ce sondage, c'était aussi voir le poids du vote blanc.
Oui.
Intéressant de voir que 19% des Français, si le vote blanc était comptabilisé comme un vote à part, compté en suffrage exprimé, choisiraient un vote blanc. 19%, ça fait plusieurs millions de Français. Et surtout, l'écart Macron-Le Pen s'est réduit de 10 points en à peine un an et demi. C'est l'autre versant de l'impopularité d'Emmanuel Macron. Souvenons-vous que dans notre rolling avec Bruno, pendant l'élection présidentielle, la veille du grand débat, on était sur 60-40. Il s'est passé, enfin, le grand débat. Le débat d'entre deux tours, c'était pas le grand débat.
Oui.
Et on voit à quel point, certes, Emmanuel Macron a un socle qu'il a solidifié. C'est le candidat qui est le rempart face à d'autres candidats. Mais le courant populiste, la force de Marine Le Pen, c'est qu'il semblerait que sa campagne catastrophique de second tour soit en passe d'être oublié.
Hein,
56-44, ouais. C'est un rapport de force relativement serré à 3 ans d'un vote et dans une campagne qui n'a pas commencé.
Parce que si un auditeur tout à l'heure nous disait Emmanuel Macron, pour sa popularité regagnée, peut dire merci aux Gilets jaunes, Marine Le Pen aussi. Ce que traduit au moins ce sondage, c'est la bipolarisation de la vie politique qui sera très probablement le scénario d'ailleurs du 26 mai, élection européenne, Bruno Jeudy.
Oui, alors bon, c'est un exercice de fiction qu'il faut prendre avec précaution.
Bien sûr, oui.
C'est vrai que la leçon principale, c'est que ça valide la stratégie mise en place par Emmanuel Macron, qui est en gros, d'organiser un paysage politique autour de cette bipolarisation. Hein, péter toujours plus la droite, après avoir explosé le PS, pour être au fond seul face au populisme, et Marine Le Pen singulièrement.
C'est un jeu dangereux. Hein.
C'est un jeu extrêmement dangereux, parce que la disparition de la gauche et la droite derrière conduira à un moment, peut-être à une forme de trumpisme chez nous la fois prochaine ou la fois suivante. Donc, gardons-nous de cette hypothèse. Ça confirme que Marine Le Pen va mieux. Effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, dans sa première partie, lui profite. Je ne suis pas sûr que ça lui profite tant que ça dans la deuxième partie, parce qu'on le voit, là, elle commence un peu à patiner. Là. Elle ne sait pas trop comment sortir du grand débat, se positionner. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait une position ambigu sur les violences pendant les manifestations, soutenant les gilets jaunes, dénonçant pas vraiment les casseurs. Moi, je trouve que c'était quand même relativement ambigu. ambigu. Et elle le paye un petit peu quand même. Et puis la troisième, et là pour le coup, moi je suis assez méfiant. On enterre la droite avec ce sondage, ok.
8% vous dites pour Laurent Wauquiez ?
Franchement, oui. Souvenons-nous où on était 2 ans avant la présidentielle. Personne n'avait imaginé surgir Emmanuel Macron, candidat de centre-gauche à l'époque, remportant la présidentielle 2 ans plus tard. Donc la droite est peut-être aujourd'hui au fond du trou. Elle peut aussi trouver son candidat. Alors peut-être que ce ne sera pas Laurent Wauquiez, dont on voit qu'il ne parvient pas à rassembler plus largement que le noyau dur de la droite. Mais il y a d'autres figures de droite sur le tarmac qui peuvent aussi à un moment saisir leur chance. Xavier Bertrand aujourd'hui, ouais, paraît sur un créneau local qui peut marcher. Donc je trouve que bon, voilà.
C'est un enseignement, ce sondage. Beaucoup de prudence, on entend bien des deux côtés.
L'enseignement, c'est qu'on est dans une situation un peu binaire entre les marcheurs et ce parti des raisonnables, ce que veut faire Macron, hein, et l'extrême droite de Marine Le Pen, qui s'est quelque part rétablie de manière presque miraculeuse.
Mais ça peut dessiner quelle stratégie pour En Marche d'ici aux européennes, pour vous, Frédéric Dabi?
La stratégie pour les européennes, elle est très différente pour En Marche, mais c'est la même logique. On est dans un contexte en France eurosceptique. Hein. Le référendum du 29 mai n'a pas été une parenthèse de l'histoire. Mais il y a une France du oui qui, aujourd'hui, ici et maintenant, si elle va voter, ne pourrait voter que pour la liste En Marche Modem, qui est la liste la plus européenne. Et ça fait beaucoup de monde. Ce sont plus des segments qui vont plus voter que la moyenne. Mais très clairement, en France, il y a un contexte d'euroscepticisme fort. Mais, et c'est pour ça que coupler les européennes avec le référendum peut être dangereux, il y a une petite musique que les Français expriment sur l'Europe qui a changé. Certes, euroscepticisme, mais de plus en plus, la prise de conscience que les solutions sur les questions migratoires, sur les questions environnementales ou sécuritaires se font à l'échelle de l'Europe. Il y avait une phrase de François Hollande pendant la campagne 2012, l'Europe n'est pas le problème, l'Europe est la solution. De plus en plus, les Français y croient. Et c'est encore un élément qui peut être intéressant pour En Marche, même si les Français y croient, mais ils voient globalement et structurellement l'inefficacité de l'Europe, de l'Union européenne.
Merci messieurs pour ces analyses, vraiment, et pour leur qualité. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, dont je renvoie différents sondages du moment. Bruno Jeudy, rédacteur en chef, chef du service politique à Paris Match. Voilà, on a décidé le climat politique actuel et cette remontée de la cote de popularité d'Emmanuel Macron avec beaucoup de points de suspension. Merci messieurs. On fait une petite pause et puis on va se retrouver dans un instant pour parler du cannabis thérapeutique. En quoi peut-il être bénéfique, ce cannabis? C'est une grande conférence demain à la Maison de la Chimie à Paris sur le sujet. On va faire le point aussi sur la législation en vigueur en France et beaucoup de témoignages pour nous prouver aussi l'utilité, le bénéfice de ce produit. À tout de suite, Julie.